BFM Business, tout pour investir, Stéphane Pedrazzi.
La deuxième heure de Tout pour investir, largement consacrée à l'immobilier. Dans un instant, avec Marie Cœur de Roy et nos invités, on reviendra sur les chiffres des notaires et de la FNAIM sur les ventes de logements en France, volume et prix de vente. Quelle est l'évolution? On parlera également du pouvoir d'achat immobilier avec l'évolution des taux de crédit. Et puis, on vous parlera de la transformation des bureaux, transformation de logements en bureaux, nouveaux usages, nouvelles tendances. On vous expliquera tout ça avec Victor Caro et Jean-Louis Delloro qui seront nos deux invités. Tout à l'heure à 11h45, on vous parlera des cryptos. Une petite révolution est en train d'arriver. Vous vous rappelez des ETF libellés en Bitcoin? On va parler des ETF libellés en Ethereum cette fois-ci. Est-ce que l'histoire peut se répéter? Est-ce que c'est une très bonne nouvelle pour le cours de l'Ether? On en parlera avec Amaury de Tonquédec, notre spécialiste crypto et Web3 sur BFM Business. Mais tout de suite, les marchés financiers. Antoine Larigauderie. Antoine, on pourrait pratiquement répéter ce qu'on a dit il y a une heure. On est en très légère baisse, moins 0,2%. Et on peut répéter aussi que le petit rebond d'hier n'a pas duré.
Absolument. En revanche, on limite la casse hein, quand même avec ce repli limité maintenant du CAC 40 à moins 0,21%, 8085 points. On était prêt à plonger vers les 8000 hein, en avant-marché et en tout début de séance. Là, les choses semblent vouloir se tasser un petit peu. On arrive à nouveau à des niveaux d'équilibre à peu près bons. À noter une baisse sensiblement supérieure pour les valeurs de la techno puisque l'Euronext Tech Leaders est en repli de 0,68%. On a du moins 0,4% pour l'Eurostoxx 50 et le DAX à Francfort. Fort, perd 0,4%, un marché qui est toujours sous pression des rendements obligataires qui sont tendus hein, toute cette semaine avec l'impression que la Fed pourrait ne pas commencer à baisser ses taux en septembre du fait de gouverneurs qui s'inquiètent encore de la persistance de l'inflation côté américain et de la nécessité peut-être de maintenir une politique restrictive, peut-être même de l'intensifier. Hein, c'est certains gouverneurs hein, qui s'en faisaient écho dans le dernier compte-rendu de politique monétaire de la Fed. Donc du coup, on a une pression maximale sur l'ensemble des valeurs de croissance, mais aussi sur les valeurs industrielles qui sont perturbées hein, par ces anticipations de cycle. On a Airbus qui signe la plus forte baisse du CAC à moins 1,1%, 159,42€. Mais on a aussi ST Microelectronics, par exemple, qui subit des prises de bénéfices après les très bons résultats de Nvidia, hein, publiés avant-hier soir. ST Micro perd 1,08% à 38,48€. Sinon, à la hausse, a signalé le secteur auto qui se refait quand même une belle santé. Hein, Renault plus 3,3% à 49,41€. Stellantis plus 0,6 à 20,50 et puis le secteur du luxe qui se réveille un petit peu, plus 0,49% pour LVMH, on est à 756,50€. Le CAC moins 0,19, on est à 8086 points, et l'euro 1,0830. Stéphane,
il est 11h08, l'histoire du jour.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Quelle est donc l'histoire de ce vendredi, Antoine?
Et le pétrole, parce que mine de rien, pendant toute la semaine, on a assisté à un recul des marchés actions hein, qui sont sous pression du marché obligataire, hein, comme on vient de le dire. Mais le pétrole, en filigrane, est en train de signer des plus bas de plusieurs semaines. On est à 81,10€ pour le Brent de Mer du Nord. Et si on regarde bien la scorecard, hein, on perd quasiment 8% en un mois. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il y a une partie de la prime de risque géopolitique qui s'est évaporée, notamment du fait des tensions au Moyen-Orient, des changements politiques à prévoir peut-être en Iran après le décès accidentel, semble-t-il, du président de cette République islamique. Mais au-delà de ça, on a aussi la pression des anticipations de cycles économiques. Vous savez, si les taux restent élevés pendant une période un petit peu plus prolongée du côté des États-Unis, mais c'est tout un cycle économique qui risque d'en souffrir. Et les conditions de financement vont rester très compliquées, beaucoup plus compliquées qu'il y a encore quelques mois, avec des prix du pétrole qui subiront une baisse de la demande, forcément mathématique, et notamment du côté des pays très importateurs, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe également. Donc du coup, on a des prix du pétrole qui se réalignent. Pour l'instant, c'est un mouvement latent, on va dire, mais on pourrait assister à de nouvelles périodes de turbulence et peut-être même de décrochage au fur et à mesure qu'on a les anticipations des entreprises, des grosses entreprises industrielles en matière d'énergie. On voit qu'il y a un débat qui fait rage en Europe là-dessus et que le pétrole pourrait être encore une fois un facteur X sur l'ensemble des marchés, mais cette fois, ce serait plutôt un mouvement baissier qui menacerait les cours, obligeant l'OPEP à réagir à nouveau et semant le trouble, hein, évidemment, sur l'ensemble des anticipations économiques.
Merci beaucoup Antoine Larry-Gaudry en direct du siège d'Euronext. Il est 11h10, dans un instant on va vous parler immobilier. Sommaire assez dense, on va commenter les derniers chiffres des notaires et de la FNAIM sur les ventes de logements en volume et en prix. On parlera du pouvoir d'achat immobilier et puis on vous parlera de bureaux. La transformation des marchés de bureaux, sujet favori de Marie Cœur de Roy, qui aura l'honneur, le plaisir d'être avec nous pendant cette prochaine demi-heure. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Nos experts de l'IMO. D'abord, notre experte maison, Marie Cœur de Roy, journaliste immobilière chez BFM Business. Salut Marie.
Bonjour.
Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Delereau, rédacteur en chef adjoint. Une voix qui porte, je veux dire, c'est le poids de cette rédaction. BFM Business, BFM.com d'ailleurs, le site web. Salut Jean-Louis.
Bonjour à tous.
On va parler des derniers chiffres des notaires et de la FNAIM sur l'évolution, Marie, des prix de vente et des volumes.
Oui, comme c'est de coutume hein, au démarrage de cette séquence du vendredi où on a un peu plus le temps de revenir sur toute l'actualité liée à l'immobilier et au logement. Jean-Louis, on va démarrer parce qu'on a eu pas mal de chiffres sur l'état du marché. On a eu le sentiment qu'avec ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt depuis le mois de janvier, que ça allait un petit peu mieux. Bon...
Non, c'est pas la folie.
Voilà. On va relativiser un peu le mieux quand même.
Hein. Non, c'est pas la folie. Le chiffre pour moi le plus intéressant, c'est le nombre de transactions pour le coup. 835 000 transactions sur 12 mois en février dernier. Donc ça, c'est les derniers chiffres. On est à moins 31% depuis le pic historique qui était en août 2021. Donc ouais. Post-Covid avec un certain emballement. On était à un peu plus d'1,2 million. Voilà. Donc, et cette année, on devrait atterrir autour des 800 000. Donc,
ouais, c'est ce que dit la FNAIM, ouais, c'est ça.
Alors même si c'était une année exceptionnelle 2021, on est quand même en dessous des normes historiques. Hein. On doit être à peu près à moins 15, moins 20% des normes. Mais bon, les notaires constatent quand même que la baisse, elle est de moins en moins forte au fil des mois. Donc, on a peut-être atteint le fond de la piscine et ils s'attendent même à peut-être une reprise en fin d'année côté transaction. Alors côté prix, on est toujours dans la baisse, moins 5,5% fin mai pour l'ensemble de la France. Ça baisse un peu plus en Île-de-France toujours qu'en province, mais ça semble se rééquilibrer parce qu'en province, les prix ont commencé à baisser un petit peu après. On a envie de dire quand même qu'on est en train globalement de liquider les excès qu'il y a eu post-Covid, où les prix c'était les gens l'ont un peu oublié, mais ça s'emballait quand même de plus 7, plus 8% chaque année pendant 2 ans, hein, donc c'était un peu la folie.
Mais... Victor Caro, comment est-ce que vous analysez vous cette situation? Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide? Ça continue de dégringoler, nous dit Jean-Louis, mais on a peut-être touché le fond de la piscine.
Oui, alors moi ce que j'entends comme bruit de couloir, c'est que pour le coup, les courtiers qui sont peut-être en avance de phase sur ces tendances réalisent que depuis le début de l'année, la volumétrie est en train de repartir à la hausse, donc il faudra voir si ça se concrétise ou pas.
Ouais,
c'est peut-être un signe encourageant.
Mais ouais, Victor, en fait, c'est un peu le sujet. Alors vous, votre spécialité, c'est quand même le bureau, mais on voulait démarrer sur le résidentiel quand même, parce qu'on a eu pas mal de data clés ces derniers jours. Mais justement, c'est ça en fait l'alpha et l'oméga aujourd'hui, et comme toujours du marché, c'est le crédit immobilier en réalité aujourd'hui.
Oui, ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui permet, lorsqu'on voit que depuis un an et demi, finalement, le pouvoir d'achat des acheteurs a diminué, je crois que de l'ordre de 30% à peu près, à cause de cette hausse des taux, ce qui va avoir une vraie incidence, c'est à quel point est-ce que, avec cette potentielle baisse des taux, mais qui tarde à arriver, avec la baisse des prix actifs et la hausse des salaires, à quel point est-ce qu'on va réussir à réenclencher une dynamique positive?
Pour l'instant, on a perdu, au début, on perdait des mètres carrés, après, on finissait par perdre des pièces, hein, une chambre en moins en termes de pouvoir d'achat immobilier. Où est-ce qu'on en est, Jean-Louis?
Eh bien, ça va un petit peu mieux depuis le début de l'année.
On a regagné quoi, l'équivalent d'un demi-couloir?
Mais tout dépend où tu vis, en fait.
Ça dépend, parce qu'à Paris, avec 2 mètres carrés, vous avez une salle de bain, une cuisine et presque une chambre d'enfant.
Ça sent le vécu.
Non, mais pour plaisanter... mais sinon, non, on est parfois sur du... entre 1 et 4, 5 mètres carrés. Alors ça dépend bien sûr, à Saint-Etienne ça va être beaucoup plus, mais moi je préfère parler en pourcentage de pouvoir d'achat immobilier en plus quand on calcule en mètres carrés. Alors par exemple depuis le début de l'année, on est quasiment à plus 8% à Toulouse, un peu quasiment plus 6% à Montpellier, plus 5% à Lyon, et Paris quasiment plus 4%, donc c'est quand même pas mal, ça va un peu mieux.
Plus 4% de pouvoir d'achat immobilier ou
en c'est surface. Ça, donc en surface achetable.
Donc si on a 100 mètres carrés à Paris, on est content, on a gagné 4 mètres carrés.
Voilà, on est passé à 104, sauf qu'en réalité, c'est pas ça, on est plutôt passé de 16,5 à 16,8, grosso modo, vous avez gagné 50 cm carrés à peu près. Quoi.
Voilà, et un petit bonjour à ceux qui nous écoutent en région,
hein, pour la chance. Par contre, Victor a raison, c'est si on regarde par rapport à 2021, là où le marché était, était en surchauffe, il était vraiment au plus
parce
haut.
Parce que les taux à 1%, quoi.
Taux à 1%, là aujourd'hui, on est à peu près à 3,8. On était à 4,10, ça c'était le top, ça c'était en fin d'année dernière. Là on est à 3,8. Mais effectivement, on était à 1% en 2021. Et donc là, on est quand même à, par exemple, je prends quelques villes, moins 34% à Nice, de surface achetable, donc de superficie le mètre carré. Moins 30% à Marseille, quasiment pareil à Toulon et Strasbourg. Et les villes qui résistent, entre guillemets, le mieux, c'est les villes où de toute façon c'était déjà le plus cher. Moins 13% à Paris et moins 12% à Lyon. Donc de toute façon, on est toujours assez loin de cette période-là. Donc les prix immobiliers s'ajustent, mais nous, quand on regarde nos baromètres, on a un partenariat avec BFM.
Avec Bien ici, tous les
mois. On voit qu'en tout cas, dans les annonces, les prix ont plutôt tendance à repartir depuis le début de l'année.
Et puis, on n'a pas résolu le problème des primo-accédants. De toute façon, le marché dans les grandes villes, il est complètement inaccessible aux primo-accédants.
Oui, c'est devenu.
Sauf si on a hérité ou.
C'est devenu extrêmement compliqué. Alors après, ça a toujours été compliqué, mais c'est vrai que là, c'est particulièrement compliqué. Et puis surtout, quand on met en parallèle, c'est pas comme si vous pouviez trouver une location facilement dans les grandes villes.
Ouais,
c'est l'enfer. Donc, c'est ça qui est vraiment très compliqué pour les primo-accédants. Mais... Et d'ailleurs, on a des chiffres de la Fondation Abbé Pierre qui montrent que de plus en plus de jeunes restent chez leurs parents.
Ne parlez pas du marché locatif, vous allez réveiller Marie.
Non, mais ça, si, c'est quand même intéressant. Mais il y a un vrai sujet quand même autour de cette perte de pouvoir d'achat immobilier. Alors, vous pouvez aller voir sur notre site web parce qu'on a récupéré les chiffres des prix de la FNAIM plus les chiffres et les moteurs de calcul du courtier vous financez pour essayer d'évaluer ce qu'on a perdu comme pouvoir d'achat immobilier et ce qu'on a regagné depuis le reflux des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Et c'est assez intéressant de voir quand même que même si on a énormément perdu, et Jean-Louis l'a très bien dit, on a quand même gommé partiellement cette perte de pouvoir d'achat immobilier liée à la hausse des taux grâce à la baisse des prix dans certaines villes. Et on a oublié de dire quand même que des taux à 1%, c'est pas logique, et que aujourd'hui des taux à 3,8, c'est plutôt normal historiquement parlant. Donc là, c'est au prix de s'ajuster concrètement. Bon, on a parlé de la crise du logement. On peut parler un tout petit peu de la crise du bureau. Elle existe, la crise du bureau ?
Il y a une crise du bureau ?
Je sais pas.
J'en ai à peine entendu parler.
Je vous regarde parce que effectivement, on n'arrête pas de parler de la crise du logement et évidemment, c'est quand même la clé.
On va poser la question différemment. Où est-ce qu'on en est de la crise du bureau ?
Non, très très juste. Alors la crise du bureau, elle est très clairement là et elle est amorcée. On n'en est pas du tout encore à la fin. Et on voit qu'il y a un double impact. On peut le regarder au travers de l'angle des valorisations et les valorisations qui ont chuté de façon spectaculaire. Lorsqu'on regarde le rendement attendu pour du bureau en plein centre de Paris, prime, on est passé de 2,8% il y a deux ans à 4,25% dans le meilleur des cas.
Ce qui est une
bonne nouvelle, avec une hausse des loyers qui n'a compensé que très très partiellement cette baisse des valeurs. Et ça, c'est quand on est en plein centre de Paris. Lorsqu'on sort de Paris, alors, il y a des zones où il n'y a même plus de marché. Où on va être sur du... Quelque part, quand on regarde par le passé, avant cette hausse des taux, on pouvait voir que le spread entre l'écart entre le rendement, non pas le yield, l'écart entre le rendement en plein centre de Paris et en première ou deuxième couronne était très limité. On voit qu'il s'est complètement reconstitué, ce qui fait que c'était une zone où il n'y a même plus de prix. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une réalité.
Vous pensez à la Défense par exemple ?
La Défense ou la Péri-Défense. Ouais. Finalement, la Défense continue d'attirer. Alors oui, il y a quand même de la vacance, mais lorsqu'on regarde, c'est la Péri-Défense qui est le plus en risque. C'est lorsqu'on sort de la Défense qu'il y a des zones qui structurellement ne seront plus du bureau.
Mais justement, où est-ce qu'on en est en termes de taux de vacances ?
Alors, taux de vacances,
sur
on est...
Sur le bureau ?
Oui. Sur le bureau, on est à 8% en Ile-de-France, environ. Ça dépend de si sont les analystes, mais environ 8%. Mais avec une très forte disparité entre le plein centre du quartier central des affaires à Paris, où on va être sur une vacance frictionnelle. C'est frictionnel, c'est 2-3%. Ouais. Et certaines zones en première couronne, où on va dépasser les 20%. Donc on n'est pas au niveau des États-Unis.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Aux États-Unis, certaines villes, certaines régions, on sait que dans la région de San Francisco,
exactement,
c'est l'hécatombe.
C'est l'hécatombe. On est entre 20 et 30% de taux de vacances moyen. Exactement. Ce qui signifie qu'il y a certaines zones qui, réellement, ne sont plus utilisées et qui sont sinistrées.
Même à New York, on est quasiment à 13,5% en 2023. Ils prévoyaient quasiment d'atterrir à 16,6% fin 2025. Ça, c'était Fitch. Donc New York, c'est-à-dire l'une des villes les plus plébiscitées au monde, les plus attractive au monde.
Il y a peut-être deux points là-dessus qui peuvent expliquer la différence entre la France ou l'Europe, parce que l'Europe est plus proche de la France et les États-Unis. Deux points, deux parmi d'autres. Mais le premier, c'est le fait que naturellement, le télétravail a un impact beaucoup plus drastique parce que la durée moyenne de trajet d'un travailleur entre son domicile et son bureau était beaucoup plus importante qu'en France. Et on voit bien que dès qu'on dépasse les 45 minutes de trajet dans un sens, et ben en fait, dès qu'on a une capacité à télétravailler, on va chercher à télétravailler infiniment plus.
En clair, il y a plus de télétravail aux États-Unis qu'en
plus
France.
Plus de télétravail, sachant qu'en plus, il y a eu une approche du risque sanitaire bien plus extrême aux États-Unis où on a considéré que les collègues ne devaient plus se voir. Il y a même une interdiction à ce que les collègues dans beaucoup de grands groupes, y compris dans leur dans le succursale européenne, puissent se rencontrer. Il y a une interdiction qu'ils se rencontrent même en dehors du bureau. Donc on a été beaucoup plus extrême, beaucoup plus vite. Et de l'autre côté, et ça c'est une étude McKinsey l'été dernier qui le disait de façon très juste, il y a beaucoup moins de porosité entre les zones bureaux et les zones résidentielles. Ce qui évidemment a un impact direct sur le fait que les durées de transport, les durées de trajet sont même plus importantes. Et les villes qui résisteront théoriquement le plus sont les villes les plus imbriquées avec du rési et du bureau, ce qui est le cas de Paris.
Et je voudrais continuer à faire le lien entre le résidentiel et le bureau. D'abord, première question sur cette crise du bureau. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que c'est essentiellement la hausse des taux ou c'est surtout le télétravail, le Covid c'est quoi le sujet pour le bureau?
C'est un peu une tempête parfaite, pas une perfect storm, mais une tempête parfaite où on a et une crise des valorisations avec cette hausse des taux qui a fait fuir un certain nombre d'investisseurs et surtout la crise des usages où on voit bien que le consensus de marché est de dire que structurellement il y aura besoin de moins de bureaux en Île-de-France. La question est de savoir si on sera à 15, 20 ou 25%, mais ce qui naturellement contribue à faire fuir les investisseurs.
Qu'est-ce qu'on en fait des bureaux? La transformation de bureaux en logement, c'est le serpent de mer, hein. On en parle, on le fait, on sait que ça coûte très cher.
Jean-Louis, il en a fait des papiers sur la transformation de bureaux en logement.
Non, mais si vous voulez, c'est un peu la recette facile, miracle, parce que comme ça, on n'utilise pas de foncier, tout le monde est content, puis tout le monde déteste les bureaux vides. Hein. Vous baladez dans Paris, vous voyez des bureaux vides, ça vous agace.
Quand on va à la Défense, alors là, c'est pas de la transformation, mais il y a des zones d'habitat sur le parvis de la Défense.
Déjà, il y a
qui ont envie d'habiter au milieu des tours de bureaux.
Alors, même si on regarde pas les quartiers. Disons qu'on est quand même dans un bon quartier central, etc. Il y a d'énormes problèmes, c'est-à-dire que rien que, par exemple, les sanitaires. Comment vous construisez des sanitaires dans du résidentiel par rapport à du bureau? Du bureau, vous avez un endroit pour chaque étage, par exemple.
C'est compliqué, ou deux. Le résidentiel, de partager les sanitaires avec les voisins, ça s'appelle le camping.
Voilà, sinon, vous refaites comme, comme à l'ancienne époque, dans l'Haussmannien, vous avez les toilettes sur le palier. Mais sinon, en vrai, en fait, faut tout refaire, faut tout casser, faut absolument tout refaire. Ensuite, souvent, c'est très vitré. Donc, vous avez quand même besoin, pour votre intimité, de changer la façade, etc.
Et puis, il y a l'accès.
En fait, il faut tout restructurer. Donc, en fait, ça a un coût qui est monstrueux. Donc, même ce qu'on dit souvent, c'est que parfois, il vaut mieux tout raser.
Démolir pour reconstruire.
En fait, ça vous coûte moins cher que de réhabiliter. Et puis après, en fait, c'est vraiment un pouillème des choses. Hein. Là, on parle... Alors, c'était dans... Parce qu'effectivement, le Sénat a voté cette semaine une loi qui permet de faciliter la transformation de locaux commerciaux en logements. Alors, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi dans l'absolu. Mais donc, on parle d'à peu près 4,5-5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France. Si on convertit tout, on arrive... Alors ça, c'est les calculs des sénateurs. On arrive à 70 000 logements potentiels. Bon, c'est rien. Et puis, en fait, si vous faites ça, vous allez devoir reconstruire du bureau assez vite parce qu'en fait, c'est normal qu'il y ait un petit peu de bureau vide parce que c'est ce qu'on appelle la friction. Quoi. C'est la vacance frictionnelle. C'est un petit peu nécessaire. Donc, en fait, le vivier en fait, de logement est assez faible. Ça a un coût est énorme. Donc ça peut être une solution ponctuelle de temps à autre. C'est bien de l'encourager. Par contre, c'est pas du tout une solution structurelle.
C'est pas une fin en soi et c'est pas ce qui va révolutionner la face du monde. Victor, c'est quoi? C'est peanuts, en fait.
Très aligné avec Jean-Louis. Alors je pense que déjà, toutes les zones ne peuvent pas s'y prêter. Est-ce qu'on a envie de créer un immeuble d'habitation juste à côté de la Défense?
Ouais, c'est ça le sujet.
Ça, c'est un vrai point avec des capex qui sont colossaux. Très aligné aussi. Le seul point sur lequel je serais peut-être en désaccord, c'est le fait de dire que tôt ou tard, il faudra recréer du bureau. Alors peut-être, mais lorsqu'on retourne à cette étude McKinsey, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle prend la temporalité 2019-2030 et elle considère, dans son scénario de base, c'est pas le scénario le plus pessimiste, mais qu'il y aura une baisse nette de la demande de bureaux, du besoin de bureaux, entre 2019 et 2030, de l'ordre de 15%.
À cause des nouvelles habitudes télétravail.
Mais ça veut dire si on y croit, on a peut-être le bon stock.
Mais après, on voit quand même qu'aux États-Unis, ça recule pas mal. Hein, sur les... Alors, Elon Musk, c'est vraiment l'exemple extrême où lui, il veut absolument zéro télétravail dans ses entreprises. Alors, c'est un petit peu extrémiste, mais c'est vrai qu'y compris dans la Silicon Valley, voilà, les gens reviennent un peu hein, sur le 100% télétravail. Maintenant, ils disent non, quand même, si vous pouvez revenir 2-3 jours par semaine, c'est bien.
Mais on va se calmer. Il n'y a que 40% des postes qui sont télétravaillables, guillemets. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est officiel.
On a essayé avec Stéphane de pouvoir bosser de chez nous, mais ils veulent pas.
On a essayé de bosser tout court.
Oui, mais c'est là qu'il y a aussi une deuxième prise de conscience, c'est qu'il y a prise de conscience du fait qu'il y a une vacance de niveau 1 structurelle qui va augmenter parce qu'il a besoin de moins de bureaux, mais on pourra en parler plus tard, mais ce que les utilisateurs, ce que les entreprises utilisatrices réalisent aussi depuis quelques mois, mais c'est assez court terme, c'est que la vacance de niveau 2, c'est-à-dire quelle est l'occupation réelle de mes bureaux, est elle dramatique. Ce qui fait que quand bien même la vacance du niveau 1 resterait relativement faible, si les entreprises se mettent à essayer d'optimiser un tant soit peu leur deuxième poste de coût du PNL de leur compte de résultat qui est le bureau, ça fera très mal.
Vous savez qu'il y a un monsieur qui nous écrit régulièrement, Daniel Depoli, il est très connu dans la profession et qui traque tous les anglicismes.
Ouais, mais il a bien raison.
Et je vois que Marie...
Je suis dans la team Daniel, moi.
Je vais essayer de faire très attention.
Juste avant qu'on arrive sur la pause, du coup, vu tout ce qu'on a dit, bon, je ne vais pas investir dans le bureau pour le mettre à la location, là, c'est complètement idiot.
En tant que privé ?
Ouais.
Alors, moi, ce que je dirais, c'est que en tant que privé, on peut très bien investir sur du bureau dans des zones qui sont des zones très sûres en termes d'occupation, mais que désormais, ma conviction, c'est que plus on va s'éloigner du centre, du quart central des affaires, plus le fait de faire du bureau va être un produit professionnel qui nécessitera la convergence entre le propriétaire et l'opérateur, et que si on est simplement propriétaire, en plus de ça, non professionnel, mais non opérateur de flexibilité, sera compliqué.
Quel est le rendement moyen sur ce type d'investissement, sur le bureau ?
Alors, sur le bureau, on va être en plein centre de Paris, on va être sur du 4,5% si vous êtes vraiment sur un actif extrêmement qualitatif. Si vous sortez du périphérique, vous pouvez largement dépasser les 7, voire atteindre les 10%.
Mais encore une fois, quand il y a des énormes rendements, c'est qu'il y a énormément de vacances.
Naturellement, ce fameux couple risque-retour. Et cette énorme vacance, le problème, c'est que de plus en plus d'utilisateurs demandent, il y a maintenant 42% des utilisateurs, selon l'étude CBRE l'année dernière aussi, qui souhaitent maintenant que dans leur beau, il y ait une capacité à ne payer que les surfaces qu'ils utilisent vraiment. C'est-à-dire en fait de la flexibilité. Ben est-ce qu'un privé sera capable de le proposer? J'en suis pas sûr.
Ouais. Ah non, mais moi, c'est un vrai sujet sur comment on occupe et quels sont nos usages de nos bureaux, sachant que pour les entreprises, on le rappelle, l'immobilier, ça reste le premier coût derrière les salaires, évidemment, mais c'est le premier coût pour une entreprise. Donc, ça reste quand même des vrais sujets. Et du coup, je pense que ça sera l'occasion, en deuxième partie d'émission, d'aborder ce que vous proposez sur cette flexibilité que recherchent aujourd'hui les entreprises ou les utilisateurs de bureaux aujourd'hui.
Et puis on parlera du coworking. Alors je ne sais pas comment on dit en français.
Bureau partagé.
Du travail ensemble.
Certains
vivre ensemble au travail.
Du bureau flexible.
Oui, certains.
Moi je l'ai dit, j'ai bien dit.
Certains se sont brûlés les doigts sur ce marché. Mmh. On en parlera après la pause. On parlera des nouveaux usages du bureau. On continuera cette discussion. Restez avec nous.
Tout pour investir. Les experts de l'IMO.
Deuxième partie des experts de l'IMO autour de notre spécialiste maison Marie Cœur de Roy et nos deux experts Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet, et Jean-Louis Delloro, poids lourd de cette rédaction, rédacteur en chef adjoint. On va arrêter avec les private jokes. Rédacteur en chef adjoint de BFM Business.
Il se taquine beaucoup.
Surtout sur les questions de poids d'ailleurs.
Surtout sur un secteur de poids pour changer de sujet et revenir à ce qui nous intéresse, c'est le bureau. Et donc, on l'a teasé avant la pub, on va parler maintenant de ce que sera le bureau, de ce que commence à être et de ce que sera le bureau demain, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de modifications profondes. On a évoqué la question du télétravail, de beaucoup de choses, et il s'est passé quand même, avant même cette question du Covid, l'émergence de ce besoin de flexibilité avec des baux qui étaient très compliqués à gérer pour les entreprises. Donc je vais parler du coworking.
Ouais. Travailler ensemble.
Ouais. Et l'un des mastodontes du secteur, c'était, je dis au passé, WeWork. Est-ce que là, on est en train de l'enterrer, WeWork ? Et est-ce qu'on enterre avec WeWork le principe même du coworking ?
Mais attendez, qu'est-ce qui n'allait pas avec WeWork ? Excusez-moi,
c'est ma question, en fait.
Oui, non, mais qu'est-ce qui n'allait pas ? C'était le concept ou c'était le prix ?
Alors, ou c'était le management ? C'était peut-être la troisième réponse. Qu'est-ce qu'on gardera de WeWork ? Ce qu'on gardera de WeWork, c'est le fait que tout comme dans beaucoup d'autres industries avant, on passe de la propriété à l'usage et on passe d'une consommation qui est une consommation extrêmement rigide. Je possède, c'est-à-dire en fait, soit je possède mon actif, soit j'ai un bail qui m'engage pendant 3, 6 ou 9 ans, à une flexibilité qui va davantage correspondre avec l'usage. Donc, ce qu'on garde du coworking, et notamment ce qu'on garde de WeWork, c'est cette capacité à démocratiser la flexibilité, c'est-à-dire on n'a plus besoin d'être dans une alternative très simple, c'est je signe du bail ou je signe du bail, pas d'alternative. Ouais. Le problème derrière WeWork, si on peut en citer un, c'est peut-être la vitesse à laquelle la croissance a eu lieu, ce qui, dans un monde du coworking, qui est un monde qui peut être profitable si on l'opère en faisant très attention, on va
c'est
généralement...
C'est quoi ? Ils ont acheté des bâtiments trop chers et loués pas assez cher ?
Ils ont généralement loué. Alors, il y a eu quelques sujets d'achat.
C'est aussi ça, le problème. C'est qu'ils ont rien acheté, en fait.
Enfin, quasiment. Ah bah, ils ont acheté
quelques-uns.
Ils louaient, en plus, ils louaient sur des baux à 10-15 ans.
Oui. C'est eux ça, qui prenaient le risque, en fait. C'est ça, le truc. Bah,
c'est eux qui prenaient le risque. Et pour louer à des gens sur des baux de 6 mois, 1 an, etc. Oui. Donc, en fait, ils prennent le risque. Et en fait, le gap en rendement, il est pas tellement, il était pas suffisamment important en fait.
La complexité, c'est qu'ils prennent un risque, mais un risque finalement assez un entre-deux. C'est-à-dire que plutôt que de prendre un risque et de dire je vais louer comme dans l'hôtellerie à la journée, en générant naturellement une marge qui est plus importante, ouais, ils cherchaient à sécuriser autant que possible en ayant des contrats aussi longs que possible, mais qui convergeaient assez vite vers du 2 ans et donc pas très loin
pas
du
très
3
loin
ans.
De finalement,
ce qui signifie qu'on allait valoriser le fait que ce soit une offre clé en main qui a complètement changé la donne dans l'immobilier. Il faut absolument le reconnaître ça. Mais ce qui fait que leurs marges ont été extrêmement contenues. Et si en plus de ça, vous louez des actifs qui sont soit trop chers, soit trop centraux, soit pas assez optimisés, alors vous avez un effet ciseau qui est dramatique.
On en parle, il y a aussi l'éléphant dans la pièce dont on vient de parler juste avant. C'est-à-dire que le besoin de mètres carrés, quand il y a une très forte tension sur le marché des bureaux et qu'il faut trouver des espaces et tout, c'est pas évident. Mais quand vous avez 5 millions de mètres carrés vides dans Paris, bon, en fait, est-ce que vous avez vraiment besoin absolument d'avoir cette souplesse-là? C'est pas dit. Et puis en plus, il y a d'autres soucis. Moi, je pense aux petits patrons de PME. La plupart des petits patrons de PME, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une holding. Ils achètent le bien immobilier en question. Ils le louent à leur entreprise. Ça optimise tout ça fiscalement et ça permet de se construire un patrimoine. Et donc, en fait, un petit patron d'une PME qui fonctionne bien, il n'a aucun intérêt à faire du WeWork.
Bon, bah, du coup, ça a complètement défoncé le business model de Victor, là.
Ah non, absolument pas, parce que pour le coup, il y a un besoin de flexibilité qui n'a jamais été aussi important. Je reprends mon point tout à l'heure, c'est plus que jamais les utilisateurs, quel que soit l'état de leur entreprise, demandent de la flexibilité. Ils la demandent à qui ? Ils la demandent à leurs bailleurs. Leurs bailleurs sont qui ? Ce sont les principales foncières, asset managers. Et eux, aujourd'hui, ne savent pas et ne souhaitent pas opérer la flexibilité. C'est ils continuent de considérer que la meilleure relation avec un client, c'est leur client qui est d'ailleurs plutôt l'investisseur, va être une relation avec une entreprise locataire qui va durer 9 ans et qui ensuite repartira pour 9 ans sans discussion particulière. Sauf que ce qu'on voit bien, c'est que l'espérance de vie moyenne d'une entreprise a chuté ces dernières années et que la durée du bail rigide, elle, est restée aussi élevée que par le passé.
Chez Comet, vous avez un modèle de bail flexible en 3 couches. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu comment ça fonctionne ?
Oui, alors, chez Comet, nous ne faisons pas notre offre structurelle, ce n'est pas cette offre de bureau flexible, ce n'est pas du coworking, si vous voulez. Dans le bureau, il faut avoir 3 produits différents très complémentaires. Du bail, parce que le bail, on pourrait y revenir, le bail permet de sécuriser la base dont n'importe quelle entreprise a besoin au meilleur prix, au meilleur coût. Du coworking, c'est-à-dire une offre de flexibilité qui va être une flexibilité à l'année. J'ai la capacité, année après année, d'augmenter de quelques postes de travail ou au contraire de réduire un peu. Et une flexibilité à la journée. Et j'ai envie de parler de cette courbe en M que les directeurs immobiliers désormais voient. La courbe en M, c'est quoi ? C'est derrière une occupation moyenne des bureaux qu'on a loués à 45% par ses collaborateurs. Derrière, on n'est pas à la maille de la semaine, on n'est pas à 45% tous les jours. Il y a de très fortes disparités entre un lundi faible, un vendredi encore plus faible, un mardi, un mercredi et un jeudi élevé, avec un mercredi un peu plus bas.
Ah, on voit bien le M.
Ouais, ouais, ouais. On voit bien le M, on voit très bien le M. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'une entreprise demain a besoin d'avoir et du bail pour les surfaces dont elle est sûre d'avoir besoin du lundi au vendredi pendant des années, et de la flexibilité année après année d'augmenter en prenant quelques postes en plus, et notre cœur de métier qui est la flexibilité d'avoir accès pour une demi-journée ou une journée à de la salle de réunion avec plus ou moins de services, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on est tous là au bureau, c'est pour être où ? Est-ce que c'est pour être derrière un bureau ? Ah non. En fait, désormais, le bureau est un lieu de collaboration et de sociabilisation. On va au bureau pour se retrouver. Et sinon, on travaille on travaille seul, d'autant mieux qu'on n'est pas dérangé. Donc pas dans un open space, plutôt à la maison si on ne doit pas s'occuper de ses enfants.
Mais pas avoir les enfants par contre.
Donc notre offre, en fait, pour répondre à votre question, notre offre, c'est une offre de flexibilité à deux niveaux. On a la flexibilité extrêmement court terme que personne d'autre ne propose sur le marché. On propose à des corporates, et nos clients sont avant tout de très grandes entreprises, de la flexibilité sur la salle de réunion ou l'espace événementiel pour une demi-journée ou une journée, et désormais aussi une flexibilité sur le poste de travail à l'année.
Moi, je suis désolée, j'ai compris le principe général, mais j'ai pas compris techniquement. Il faut m'expliquer très simplement. Vous avez en votre possession des bureaux que vous louez. Vous adaptez les bureaux déjà loués par des usagers entreprises, et donc du coup, vous essayez de réadapter ce qu'ils ont déjà pour sous-louer éventuellement une partie quand c'est inoccupé. Il va falloir me parler simplement.
Alors, nous avons un parc d'immobilier, un parc de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés à Paris, Bruxelles, Madrid, où nous avons et notre offre de lieux de réunion événementielle où nos clients sont avant tout du SBF 120 ou CAC 40 et viennent pour faire des réunions, des formations, des événements chez nous.
Ouais.
Et nous avons également une offre qui est aujourd'hui dans ses débuts. Nous avons démarré il y a un an là-dessus, qui est une offre qu'on appelle non pas Comet Meetings mais Comet Workplaces, qui est une offre de bureaux à la coworking pour schématiser, mais qui ne tombe pas dans les travers du coworking classique et qu'on n'a jamais assez de salles de réunion et donc c'est un point de friction. Et on ne se sent jamais chez soi parce qu'on a l'impression qu'on doit se fondre dans la culture du coworker. Et donc ça, ce sont les offres que nous avons. Et la vision que nous avons pour l'immobilier de bureau demain, c'est que nous irons de plus en plus vers une convergence entre le métier de propriétaire et le métier d'opérateur. Et que les propriétaires, les foncières de ce monde n'auront plus la possibilité de seulement espérer que leurs locataires louent et prennent à bail 100% de la surface si elles ne les achètent pas, mais qu'elles devront demain leur proposer plusieurs contrats que nous sommes en mesure d'exécuter, du bail évidemment, mais beaucoup moins que par le passé. Je pense qu'il y aura 50% de bail seulement, de la flexibilité à la journée et à l'année.
Là, on parle beaucoup de surface, d'espace, de bureaux disponibles. J'aimerais qu'on parle des services aussi. Qu'est-ce que les entreprises utilisent le plus en termes de services ?
Le baby-foot. Baby-foot.
Je trouve que c'est un exemple parfait
de ce qu'il faut pas faire.
Exactement.
On est d'accord.
Et de ce que non mais on peut le proposer.
Petit message au baby foot du deuxième étage.
Qui a été enlevé d'ailleurs.
Ah, oui. Ce qui est bien qu'il ne sera pas utilisé. Mais ça a trop longtemps été le symbole d'un management qui considérait qu'il allait répondre aux attentes des utilisateurs, de ses utilisateurs, de ses clients qui étaient ses employés. Mais si en revanche quelqu'un jouait à 14h au baby foot, le regard noir le dissuadait probablement d'y retourner.
Il a été enlevé chez BFM.
À cause d'un regard noir ?
Non, celui de Stéphane, il est très jugeant.
Donc, quels sont les services qui sont... Alors, beaucoup de services étaient soi-disant utilisés par le passé et je pense ne seront plus demandés demain. Je vais prendre un exemple, la conciergerie. Pressing, le pressing, la cordonnerie. Alors, la question est de savoir si on porte encore des costumes ou des chemises. Mais si on en porte encore, et compter les travails désormais une journée par semaine, va-t-on aller mettre son costume et sa chemise au pressing au bureau et ensuite le prendre dans l'RER ou le métro, ou sur son vélo, encore pire, ou au contraire, aller chez soi, à côté de chez soi, dans son pressing de quartier ?
On peut aussi venir travailler en jean et garder un costume, quelques chemises au bureau et dans son
RER
aussi. Il y a des différentes façons. Maintenant, l'uniforme n'est plus forcément obligatoire en entreprise.
Non, c'est vrai. Mais ce qui fait que désormais, le service principal qui va être attendu par des employés est ce qui va permettre de recréer du lien. Parce que le principal rôle du bureau maintenant, c'est de permettre de collaborer et de créer du lien. Parce que c'est désormais ce qui fera qu'un employé partira.
Bon, là, vous êtes en train de nous dire ce qui n'existe plus. Alors, plus de baby-foot, plus de conciergerie. Mais quels sont les services qu'on vous demande aujourd'hui ?
Tous ces services autour de la collaboration et la sociabilisation, c'est-à-dire avoir beaucoup plus d'espaces de collaboration, avoir une capacité à les réserver
de
façon très intuitive, des salles de réunion bien équipées, où on n'a pas besoin de s'écharper avec le câble HDMI ou USB-C pendant 10 minutes. On a une capacité à réserver ces salles de réunion de façon extrêmement intuitive avec de la tech, où on a du service, mais le service qui est utile, c'est-à-dire le service qui va vous permettre de créer du lien avec un peu d'événements qui vont vous permettre de sociabiliser les espaces qui soient adaptés.
Mais du coup, là, on est en train de gommer progressivement tout ce qui faisait le bien-être au bureau et qu'on nous avait vendu de manière assez massive dans les années 2010.
Alors, faut voir ce qu'on vendait.
La console de jeu, les salles de sieste, les choses comme ça.
Salles de sieste, oui, je pense qu'assez peu y ont cru, à part les GAFAM. Et ça reste utilisé, mais c'est très, très lié.
Bah nous, on en a, mais après, ça dépend de la nature. Faut quand même le dire, ça dépend de la nature de l'entreprise. Quand on a des gens qui
bossent sur
l'horaire décalé, effectivement.
Et la culture, voilà. Exactement. Mais non, en fait, désormais, les services qui sont nécessaires sont ceux qui vont permettre de recréer du lien et de collaborer. Donc, recréer du lien, si le fait d'avoir un espace de détente permet de le faire, évidemment qu'il faut que l'entreprise le propose. Mais il ne faut pas juste mettre un baby-foot sans adapter la culture et le mode de management. Si on l'adapte pas, alors on se donne dans conscience que ça marchera pas.
C'est quoi le bureau hôtel ?
Bureau hôtel, c'est un bureau, vous rappelez, depuis 2010 à peu près, on dit qu'il faut que le bureau soit comme la maison. On a beaucoup dit ça, tandis qu'avant le bureau était plutôt comme un hôpital. Le bureau ensuite a dû être comme à la maison pour essayer d'expliquer que c'est pas grave que vous soyez pas à la maison. Désormais, le bureau doit être beaucoup mieux que la maison. parce qu'il faut qu'on légitime pourquoi on va demander à ses employés de revenir au bureau. Et donc le bureau hôtel, c'est un bureau où se sont accueillis, où il y a des services de restauration notamment, et on a surtout derrière l'hôtellerie, ce qu'il y a, c'est la flexibilité. Et il faut évidemment penser à l'employé.
Où l'on dort.
Pardon, c'est pas un endroit
vous
où on dort.
Pas en train de nous proposer
exactement.
Un avenir du bureau.
Non, parce que pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs et téléspectateurs, pour préparer l'émission, on demande systématiquement à nos experts qui viennent de nous proposer des thématiques, des sujets qu'ils souhaitent aborder. Effectivement, Victor nous proposait le sujet bureau hôtel. Et alors là, énorme stress en se disant mon Dieu, va-t-on nous faire vivre au bureau? Est-ce que c'est ça le bureau?
Ça va arriver pendant les Jeux Olympiques à Paris.
Bien sûr, mais là.
Ce qu'il y a derrière l'hôtellerie, c'est du service pour les utilisateurs et de la flexibilité. Je vais utiliser le produit hôtelier que lorsque j'en ai besoin. Donc je dois être mieux accueilli que n'importe où ailleurs. Et donc il faut aller vers davantage de cette culture d'hospitalité dans le bureau et avoir une capacité dans des bureaux où enfin on sera dans la flexibilité. Et je ne pourrais pas plus parler de flexibilité. La flexibilité n'existe pas dans le monde du bureau, n'existait pas jusqu'à il y a 5 ans. Désormais, les foncières doivent s'adapter, d'où cette convergence propriétaire-opérateur.
Bon, il nous reste peu de temps et je voulais absolument aborder ce sujet-là avec Jean-Louis parce que bon, on a quand même des députés et sénateurs en l'occurrence qui travaillent pour essayer de résoudre, alors non pas la crise du bureau pour l'instant, mais la crise du logement. Et on a un projet de loi dont on a beaucoup parlé qui est passé entre les mains des sénateurs cette semaine, celui qui vise à mieux réguler la location saisonnière, Jean-Louis. On en est où? Parce que je sais que ça intéresse tout le monde, notamment en termes de fiscalité, je pense.
C'est un gros sujet, mais c'est un sujet qui est quand même très technique. On va dire qu'on s'attaque surtout aux avantages fiscaux. Alors, une partie des avantages fiscaux. Vous savez, quand vous louez en meublé, vous avez le choix. Soit vous faites ce qu'on appelle du régime réel, soit vous avez un abattement forfaitaire. Et donc, votre abattement forfaitaire, vous déduisez une partie de vos revenus et ça va dépendre du type de meublé. Et bien là, ce qu'on veut, c'est remettre un peu tout le monde au même niveau, parce qu'aujourd'hui, vous avez plus d'abattements quand vous faites du Airbnb en grande ville
que quand vous êtes en location nue traditionnelle. Quoi.
Que quand vous faites de la location vide ou quand vous faites du meublé
même
de
du meublé
terme,
longue durée.
C'est-à-dire sur 3 ans, voilà. Et donc là, on dit, bon, on enlève tout, on fixe à 30% d'abattement, donc moins 30% sur les revenus qu'on peut déduire pour tous les meublés. Et bon, on garde une petite exception pour les meublés classés dans certaines zones.
C'est bien ça, Jean-Louis, non?
Donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais il y a un gros mais. C'est, alors, les parlementaires l'avaient vu au début, mais là, c'est un peu passé à l'as. Il y a un problème sur l'amortissement en régime réel. Alors, c'est quoi l'amortissement? C'est toujours un peu compliqué. C'est comme un ordinateur dans une entreprise. Vous savez, on achète un ordinateur et puis on l'amortit sur 3-5 ans. Voilà, chaque année, on enlève 500 euros et ça permet de déduire ça de ses revenus. Alors, on fait la même chose en fait en meublé quand on est en régime réel. En fait, on peut amortir son bien immobilier. Et là, vous voyez bien qu'avec les montants en jeu, donc vous l'amortissez sur 20 ans ou 25 ans. Ça dépend du... Faut voir un comptable là-dessus. Et donc, finalement, on va vous arriver quasiment à effacer tous les impôts. Donc, tous ceux qui sont un peu malins et qui font de la location type Airbnb, en réalité, ils sont au régime réel. Ils ne sont pas du tout à l'abattement forfaitaire. Parce que même s'il y avait des abattements qui allaient jusqu'à 71% en meublé de tourisme classé,
oui,
en fait, au régime réel, vous arriviez à 100%. Donc, en fait, c'était mieux.
Mais du coup, vous êtes en train de nous dire qu'on se trompe de combat?
C'est pas qu'on se trompe
de levier.
C'est un levier, mais en fait, on en oublie un qui est essentiel. Et en fait, derrière ça, tout le problème, et ça, Marie en a souvent parlé, c'est qu'en fait, on n'a pas de statut de bailleur privé. C'est extrêmement complexe entre de la location vide. Est-ce que c'est un régime forfaitaire? Est-ce que c'est un régime réel? Dans quelle zone vous êtes? Enfin, en fait, c'est un peu n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi. Puis tout ça, en fait, c'est plein de choses qui ont été ajoutées au fur et à mesure. Non, il faut un statut de bailleur privé.
C'est-à-dire inciter et orienter l'investissement des ménages vers ce dont on a besoin en termes d'offres locatives à destination des locataires. C'est à peu près ça.
Alors,
le sujet.
Soit on peut dire, on se décide, c'est le marché qui décide, c'est aussi une option, mais dire, en tout cas, tout le monde est à égalité. Donc voilà, on privilégie. Mais aujourd'hui, on privilégie clairement la location saisonnière à la location longue durée. Quand on est en pleine crise du logement, qu'il y a des gens qui commencent à aller dans les campings ou dormir dans leur voiture, ça paraît quand même assez aberrant de réserver autant de logements pour des touristes.
Un invité nous disait cette semaine, dans cette tentative de rééquilibrage entre location traditionnelle et location meublée touristique, qu'on se trompait de combat, qu'au lieu de tirer sur les locations meublées touristiques, on ferait mieux d'assouplir un petit peu le marché locatif traditionnel.
On peut faire les deux.
Qui était beaucoup trop contraint, mais, de son point de vue, pour les propriétaires. Je sais que Marie ne sera pas d'accord avec moi.
Si, je dis on peut faire les deux.
Ouais. Non, mais c'est pas faux aussi. C'est-à-dire qu'en plus, même si fiscalement, déjà, c'est plus avantageux la location Airbnb, mais qu'est-ce que vous êtes 10 fois moins embêté en termes de normes? normes, etc. Vous n'avez même pas besoin de respecter pour l'instant.
Ah non, si normalement dans,
justement dans le
projet de loi
ils veulent remettre, que... mais le DPE, vous savez, vous êtes interdit de location. Pour l'instant, en fait, ça ne s'applique pas.
C'est-à-dire qu'on peut louer location Airbnb thermique en location
plus pour longtemps. Plus pour longtemps.
Alors on verra parce qu'il y a des dans les stations de ski comme on va faire.
Oui, c'est ça. Ils vont faire quand même quelques petites exemptions parce qu'à un moment donné, la bergerie au fond de l'Arzac, c'est compliqué de la mettre en A.
Donc voilà, mais en fait, il y a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de contraintes, puis vous avez beaucoup moins de risques quand même en location saisonnière. Bon, les gens qui viennent pour squatter, il y en a quand même très très peu. Oh. Alors que vous êtes propriétaire d'un logement en longue durée et ou même de votre propre logement et quelqu'un vient squatter, enfin, ça reste quand même très compliqué en France de récupérer son bien.
Oui, oui. Faut pas me lancer sur le sujet.
Merci beaucoup. On arrive au terme de ces experts de l'IMO. Merci à tous. Marie-Cœur de Roy, journaliste IMO, BFM Business. Victor Caro, cofondateur et CEO de Comet. Et Jean-Louis Delaureau, rédacteur en chef adjoint chez BFM Business. Dans un instant, on va vous parler crypto avec Amaury de Tonquedec. Une nouvelle qui va peut-être donner un petit coup de fouet à l'Ethereum. Il nous explique tout ça dans un instant.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir dans les cryptos, on en parle tous les jours sur BFM Business, 15h-15h30 avec Amaury de Tonquedec du lundi au jeudi et Guillaume Sommerer le vendredi. Amaury, il est en train de se passer quelque chose sur les cryptos. Ça a été l'un des moteurs sur le Bitcoin sur les premiers mois de l'année. Les ETF au comptant libellés en Bitcoin. Et là, un ETF Ethereum a été spot, donc au comptant, a été approuvé hier aux États-Unis. Qu'est-ce que ça change ?
Vous l'avez dit, Stéphane, il y a 4 mois, on a eu un ETF, enfin plusieurs ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés du côté des États-Unis, voilà, acceptés par la SEC, le gendarme boursier américain. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'ETF Ethereum Spot. Alors pourquoi c'est important ? Ben, un peu pour les mêmes raisons pour lesquelles ça l'était pour un ETF Bitcoin Spot. C'est-à-dire que maintenant, tous les Américains vont pouvoir acheter de l'Ethereum via leur compte titre, tout simplement. Donc ça va complètement démocratiser, comme ça a démocratisé l'achat du Bitcoin et que ça va continuer à le faire, ça va démocratiser aussi celui de l'Ethereum. Et en plus, le fait que ça valide, entre guillemets, cet actif à part entière par Wall Street, et ça va rassurer les gens, notamment sur la notion de risque, dire, bon, bah voilà, si des grosses maisons de gestion y vont, si Wall Street l'accepte, quelque part, c'est un actif respectable. Le fait qu'il y ait le tampon de Wall Street sur l'Ethereum, c'est clairement quelque chose qui change la donne.
Quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur le prix ? Est-ce qu'on peut s'attendre au même scénario que sur le Bitcoin ?
On pourrait, alors pour rappel, un ETF Bitcoin ou Ethereum Spot, ça veut dire que quand quelqu'un achète, par exemple, un Ether via cet ETF, il faut que la société émettrice de l'ETF
l'achète physiquement, l'achète réellement.
Il faut qu'il y ait c'est un pour un. Quand il y a un achat de un, bah on doit la société doit en détenir un, donc l'acheter.
Donc ça va créer un appel d'air.
Ça pourrait clairement créer un appel d'air. La petite différence avec le Bitcoin, c'est que l'ETF Bitcoin qui a été accepté en janvier, la rumeur courait depuis plusieurs mois qu'il allait être accepté par la SEC. Donc les institutionnels avaient déjà acheté depuis de longs mois, ce qui expliquait la courbe en hausse du Bitcoin, déjà même à partir de la fin de l'année dernière. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec l'ETF Ethereum Spot, personne s'y attendait.
Vous l'aviez dit, effectivement, la probabilité était faible. Je crois que vous l'avez dit sur ce plateau, 25%.
C'est ça. Jusqu'à lundi, il y avait 25% de chance, selon des analystes ETF de Bloomberg, qu'il soit accepté. Et là, en quelques heures, on est passé de 25% à 75%. Ce qui fait que les institutionnels, contrairement à ceux pour le Bitcoin, n'ont pas eu le temps d'en acheter avant. Donc, a priori, il devrait y avoir une forte pression acheteuse. Mais ça va prendre un certain temps parce qu'ils sont acceptés sur le principe. Mais le temps que ces produits-là, il y en a 8 demandes qui ont été faites, soient mises sur le marché, ça va prendre quelques semaines.
Au-delà de l'Ether, c'est quand même quelque chose de majeur pour tout l'écosystème crypto à l'échelle mondiale.
Oui, parce qu'en fait, c'est un revirement politique majeur aux États-Unis. Et on se demande même s'il n'y a pas quelque chose à voir avec les élections qui arrivent en novembre. Parce qu'on le disait il y a juste avant, Stéphane, il y avait 25% de chance en début de semaine que ce soit approuvé. Et d'un seul coup, on passe à 75% de chance. Il y avait toute une guéguerre avec la SEC qui ne voulait pas accepter ces ETF Ethereum Spot pour des raisons de qualification juridique, comme quoi le Bitcoin a été accepté parce que c'est considéré comme une matière première aux États-Unis, alors que l'Ethereum, lui, serait considéré comme un titre financier. Maintenant, il semblerait que d'après la SEC, l'Ethereum soit considéré comme une matière première. Et puis, on a aussi un projet de loi qui a été voté hier aux États-Unis qui redéfinirait complètement la répartition des rôles entre la SEC, qui gère les titres financiers aux États-Unis, et la CFTC, qui gère les matières premières. Et finalement, cette redistribution des rôles fait que la façon dont le régulateur américain voit les cryptos pourrait complètement évoluer. Et on voit aussi qu'il y a des élections qui arrivent, donc on l'a dit tout à l'heure, que les cryptos rapporteraient potentiellement des voix. Donald Trump, en tout cas, lui, s'en sert. Il y aurait dans les fameux swing states, hein, donc ces États qui pourraient faire la différence vers la fin du scrutin, il y aurait 20% d'électeurs qui seraient favorables aux cryptos. Et ça, clairement, ça change.
Ça devient un sujet politique, ouais.
Clairement.
Une dernière question, mais ces crypto-monnaies qui sont en train de s'institutionnaliser, ça va un petit peu contre l'esprit d'origine des cryptos.
C'est clair que
anti-système.
C'est clair que philosophiquement, ça, on s'éloigne. On va dire que ça centralise.
On est plus dans le white paper, c'est ça, comme ça qu'on appelait la création du Bitcoin.
Exactement. Le white paper, c'est un peu le plan de vol, un peu la notice du Bitcoin. Alors, en tout cas, techniquement sur le Bitcoin, en tout cas, ou sur les cryptos de manière générale, ça va rien changer à leur fonctionnement. C'est juste en fait que ça va. Elles vont s'institutionnaliser au niveau du prix. C'est-à-dire que finalement, plus de personnes pourront en acheter et ce sera connu par plus de personnes, donc validé entre guillemets par Wall Street. Maintenant, sur le fonctionnement technique en lui-même, ça ne change rien. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu paradoxal parce que c'est quelque chose de complètement décentralisé. Et là, ça devient un peu plus centralisé vu que ça va vers Wall Street. Mais je le rappelle, sur le fonctionnement en lui-même, ça ne change rien.
C'est intéressant hein, comme évolution. On a l'impression qu'on est en train de vivre un moment majeur dans l'évolution des crypto-monnaies qui proposaient quelque chose d'alternatif. Et finalement, on se rend compte que les financiers traditionnels sont un petit peu en train de mettre la main dessus.
Clairement, ils sont en train de mettre la main dessus. Ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a la finance traditionnelle qui va vers la crypto et on a aussi des entreprises crypto qui sont en train, elles, de s'institutionnaliser. Donc, il y a certaines plateformes d'échange crypto aujourd'hui qui sont en train de devenir les banques de demain.
Merci beaucoup Amaury de Tonquédec, BFM Crypto du lundi au jeudi sur BFM Business et les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer le vendredi 15h-15h30. Dans moins de 6 minutes, avec vous
bonjour
sur BFM
Stéphane.
Business et Sandra Gondouin, toute son équipe. Bonjour Sandra. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ?
On va parler de plein de choses, tous vos sujets en entreprise. Vous savez, il y a une adresse à connaître, c'est avec vous, @bfmbusiness.fr. On va parler de doper ses ventes sur son site internet grâce à l'IA. On va parler de levée de fonds, on va parler d'intrapreneuriat. Est-ce que je peux aussi ne pas être d'accord et surtout le dire avec mon supérieur hiérarchique ? Toutes ces règles en entreprise, on va en parler. Et puis toutes les questions que vous allez nous poser à partir de maintenant, durant l'émission, avec vous, @bfmbusiness.fr. FR.
À suivre donc dans un instant. Merci beaucoup Sandra Gondouin, toute son équipe. Jean-Marc Daniel notamment sera autour de la table. On connaît son amour pour les crypto-monnaies. Peut-être qu'il en parlera. La séance en cours à la Bourse de Paris, le CAC toujours en baisse, -0,22%. Il ne s'est pas passé grand-chose au cours de ces deux dernières heures sur le marché parisien. Le rebond d'hier n'aura pas duré très longtemps. Parmi les valeurs à la hausse, Renault, Téléperformance et Stellantis. Belle séance pour l'automobile. À la baisse, toujours le secteur bancaire, Société Générale, qui avait beaucoup progressé sur un aspect spéculatif, perd aujourd'hui 1,4%. Airbus abandonne 1,1%. STMicro, troisième plus fort. Forte baisse abandonne 0,9%. Lundi, vous retrouverez Lorraine Goumeau aux commandes de Tout pour Investir à partir de 10h. Passez un bon week-end. À très bientôt sur BFM Business.
Tout pour Investir sur BFM Business.